Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et nous débuterons ce journal avec la mise en garde du gouvernement. Si l'entreprise japonaise Bridgestone supprime effectivement plus de 800 postes dans le Pas-de-Calais, alors la France lui fera mauvaise presse. Vous entendrez la ministre déléguée à l'industrie et la réaction de la direction au Japon.
Les femmes ont presque deux fois plus de risques que les hommes de perdre leur emploi dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Nous vous les détaillerons.
Dans ce journal aussi, nous irons au Venezuela où une partie du gouvernement est accusée de possibles crimes contre l'humanité. C'est ce qu'affirment des enquêteurs de l'ONU évoquant de la torture et des assassinats.
Et puis, compte rendu à suivre du procès des attentats de janvier 2015. Hier, un ancien salarié de l'imprimerie de Dammartin au Goël a raconté son calvaire et sa peur de la médiatisation.
Nous l'entendrons après cette édition Guillaume, le billet politique avec Frédéric Saïs. Son thème ce matin, Marine Le Pen, de plus en plus contestée au sein de sa famille politique. À la détresse des salariés s'ajoute la pression des politiques. Ce pourrait être aux yeux du gouvernement l'exemple type de la fronde sociale que nous évoquons dans les matins de France Culture ce mercredi. L'exemple d'une entreprise qui taille dans ses effectifs malgré le plan de relance proposé par l'exécutif. Dans le Pas-de-Calais, 863 personnes vont perdre leur travail chez Bridgestone. Le fabricant japonais de pneus veut fermer son usine à Béthune. Une humiliation selon le maire de la commune qui est soutenu par le président des Hauts-de-France que nous avons entendu ce matin, Xavier Bertrand. Et c'est maintenant à la ministre déléguée de l'Industrie de parler. Elle persiste et elle signe. Elle accuse Bridgestone de n'avoir rien fait pour favoriser la compétitivité de son site à Béthune. Agnès Pannier-Runacher sur France Bleu Nord ce matin.
Quand vous n'investissez pas pendant 10 ans dans un site, vous pouvez effectivement vous retourner la dernière année en disant « c'est embêtant, cette usine est obsolète ». Mais c'est trop facile. Et nous, ce que nous reprochons à Bridgestone, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. Ils sont à l'origine de la situation, ils sont à l'origine d'un sous-investissement, ils sont à l'origine d'un dialogue social qui est dégradé. Lorsque vous conjuguez ces deux éléments, il est rare que la performance de l'usine soit au meilleur de sa forme. Donc, nous sommes en train d'organiser une réunion avec les dirigeants de Bridgestone, pas les dirigeants du site, mais les dirigeants à minima européens de Bridgestone, avec les élus locaux et les représentants du personnel. Cette réunion pourrait se tenir lundi. Et nous ferons du bruit. Et lorsque vous êtes une marque de pneus qui sont vendus aussi aux particuliers, tout ça peut être très désagréable, donc nous voulons comprendre. Et moi, j'invite vraiment Bridgestone à prendre ses responsabilités et à venir à la table de négociation.
Voilà, c'était la ministre Agnès Pannier-Runacher, interrogée ce jeudi matin par Winnie Claret, France Bleu Nord. Voyons maintenant la défense de Bridgestone. Notre correspondante au Japon, Karine Nishimura, a pu joindre les dirigeants de l'entreprise.
Vu du Japon à 10 000 km, fermer le site de Béthune est présenté comme une fatalité. Samaro Ijima est porte-parole au siège de Bridgestone à Tokyo.
Nous investissons grandement depuis longtemps dans cette usine, mais la demande de pneus de petit calibre baisse et pour produire des plus gros modèles, c'est trop de contraintes matérielles. Il faudrait presque construire une nouvelle usine car les équipements sont beaucoup plus imposants. Nous avons étudié toutes les options, mais avons conclu que c'était impossible.
Les salariés n'ont été alertés qu'une demi-heure avant l'annonce officielle.
Je pense qu'il y a eu en amont des discussions avec les représentants du personnel, mais il est vrai que nous n'avons informé la majeure partie des employés que le matin même. Ce calendrier d'annonce a été décidé par notre représentation en Europe, en accord avec la direction sur place. Nous avons l'intention de tout faire pour aider au reclassement du personnel dans la mesure du possible.
Un reclassement difficile en l'absence d'autres usines en France.
C'était notre correspondante au Japon, Karine Nishimura, ce matin. Pour dénoncer plus généralement toutes ces suppressions de postes en France, une journée de grève est prévue aujourd'hui par la CGT, mais aussi par Solidaire, la FSU, les syndicats étudiants, lycéens et quelques bureaux départementaux de force ouvrière. Des manifestations sont notamment attendues à Paris et à Marseille, dans le respect, disent les syndicats, dans le respect des gestes barrières. Arrêtons-nous à présent sur ce décret qui vient tout juste de paraître au journal officiel. Le Covid-19 est bel et bien reconnu comme maladie professionnelle. C'était attendu et demandé par les syndicats, mais le texte publié ne correspond pas à leurs attentes. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, accuse même le ministre de la Santé, Olivier Véran, de trahison. Wafia Kenich nous explique pourquoi.
C'était au mois d'avril, l'époque du confinement, des applaudissements aux fenêtres pour saluer les soignants et des services de réanimation saturés. Il y a 5 mois, donc, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclarait que le Covid serait automatiquement reconnu comme maladie professionnelle pour les hospitaliers. Même chose en ville et pour les intervenants auprès des personnes dites vulnérables. Et ce qui met Laurent Berger en colère, c'est qu'à cette promesse vient s'ajouter une condition et pas des moindres. Ces soignants devront avoir contracté une forme sévère de la maladie. Traduction: avoir eu besoin d'oxygène. Si vous êtes soignant et que vous avez été mis sous oxygène, dans ce cas et seulement dans ce cas précis, vos frais médicaux seront pris en charge à 100%. Et le hic, c'est que l'on sait bien aujourd'hui, et le ministre de la Santé le premier, que les formes graves, problèmes neurologiques ou hépatiques, de Covid ne passent pas forcément par des besoins en oxygène. La CFDT est aussi vent debout contre ce décret parce qu'il laisse aux autres travailleurs que les soignants la charge de prouver qu'ils ont contracté le Covid sur leur lieu de travail. Force ouvrière estime de son côté que cette mesure va se limiter à un très petit nombre de travailleurs au vu des conditions restrictives imposées. Enfin, depuis la parution de ce décret, l'association Corona Victimes a déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État.
Wafia Kenich pour France Culture. Pour savoir maintenant plus rapidement qui est porteur du SARS-CoV-2, l'exécutif tente de désengorger les laboratoires saturés. Il autorise ainsi les tests rapides antigéniques. Et puis sachez que depuis hier, les kinésithérapeutes peuvent pratiquer des tests PCR après avoir reçu une formation adéquate. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, reprendra ses points presse hebdomadaires. Il est prévu aujourd'hui à 17h. Alors qu'hier, près de 9600 cas de Covid-19 ont été détectés. 46 malades sont décédés à l'hôpital contre 37 la veille. Autre chiffre ce matin sur lequel nous avons choisi de nous pencher. Les femmes dans le monde risquent bien plus de perdre leur emploi que les hommes en cette pandémie. Le ratio est d'1,8, près de 2 fois plus de risques donc. C'est ce que montre une étude de l'Organisation internationale du travail, Nadine Epstein.
Plusieurs facteurs expliquent la vulnérabilité des femmes sur le marché du travail en cette période de crise Covid. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, près de 200 millions d'emplois vont disparaître dans les mois à venir dans le monde et les premiers touchés sont des emplois féminisés. Dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel ou dans les économies parallèles, les agricultrices, les marchandes ambulantes. Par exemple, aux États-Unis, le taux de chômage des femmes a été, entre avril et juin 2020, 2% supérieur au taux de chômage des hommes, selon le Fonds monétaire. Les femmes sont aussi victimes du machisme international. La moitié des opinions publiques mondiales estiment qu'en cas de pénurie de travail, les hommes sont prioritaires à l'accès des emplois disponibles. Faut-il aussi rappeler l'absence flagrante des femmes dans les sphères politiques? Il y a à peine 25% de parlementaires femmes dans le monde et à peine 10 chefs d'État et de gouvernement. Si rien n'est fait, l'économie mondiale pourrait perdre 1 milliard de dollars de PIB d'ici 2030, craint le Fonds monétaire international qui ajoute que la menace qui pèse sur le travail féminin risque d'accroître la pauvreté des pays les plus démunis. À l'inverse, une politique planétaire en faveur de l'égalité professionnelle pourrait créer jusqu'à 13 milliards de dollars de PIB dans le monde d'ici à 2030.
Après l'Australie au début du mois, la Nouvelle-Zélande annonce ce matin elle aussi entrer en récession. Le pays vient d'enregistrer une baisse record de son PIB, moins 12% au deuxième trimestre.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un chef d'État en exercice est accusé de crimes contre l'humanité.
Oui, il s'agit du président vénézuélien Nicolas Maduro. Ses accusateurs sont les enquêteurs de l'ONU. Ils disent avoir de bonnes raisons de penser que Nicolas Maduro et au moins 2 de ses ministres ont ordonné le meurtre de plusieurs opposants dans le pays. La torture serait aussi devenue systématique, Jérémy Lanche.
Les enquêteurs n'ont jamais reçu le feu vert de Caracas pour mener leurs investigations sur place. Ils ont donc interrogé à distance des victimes et des témoins de ces exactions et passé en revue des milliers d'incidents. Les conclusions sont sans appel. Depuis 2014, plus de 5000 personnes auraient été exécutées par les forces de sécurité vénézuéliennes. La preuve qu'il ne s'agit pas d'actes isolés, mais bien d'une politique d'État, selon Francisco Cox Vial, l'un des rapporteurs.
Nous avons des informations qui montrent que le président Maduro a indiqué aux services de renseignement qui devait être surveillé. Il y a des détentions arbitraires, la torture est systématique. Il y a une politique organisée pour arrêter et faire taire toute opposition. Ce sont des faits, de notre point de vue, constitutifs de crimes contre l'humanité. Et les responsables doivent rendre des comptes devant la justice.
Dans la ligne de mire des enquêteurs, il y a aussi les forces d'action spéciale. responsable avec la police de plus de la moitié des exécutions extrajudiciaires. La commission d'enquête demande leur démantèlement. Face à l'incurie des autorités vénézuéliennes et la mise au pas de la justice, les enquêteurs appellent maintenant la Cour pénale internationale à se saisir du dossier.
C'était Jérémy Lange pour France Culture et le gouvernement vénézuélien, lui, dénonce déjà des contre-vérités. Le Premier ministre libyen souhaite quitter ses fonctions d'ici la fin du mois d'octobre. Fayez al-Sarraj l'a dit hier soir lors d'une allocution télévisée. Il dirige le gouvernement libyen d'entente nationale qui est soutenu par la communauté internationale, mais sa légitimité est contestée dans le pays par le maréchal Haftar et par son armée nationale libyenne. Encore un témoignage bouleversant hier à la cour d'assises spéciale à Paris qui juge les attentats de janvier 2015. Celui d'un jeune graphiste de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële. Il était resté caché pendant plus de 8 heures, recroquevillé dans un placard sous un évier. Son patron, Michel Catalano, faisait tout pendant ce temps pour cacher sa présence aux terroristes. L'employé ne veut plus aujourd'hui que son nom ni son visage apparaissent dans les médias. Il en a trop souffert. Et il raconte Florence Turme.
L'assaut est terminé, il est sorti vivant de 8h30 de cauchemar. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait. La première chose que j'ai vue avant de voir mes proches et pouvoir me ressaisir, c'est une lampe de caméra et un journaliste qui me posait des questions. J'avais mal partout, poursuit Lilian dans un souffle. Je suis allée prendre une douche et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Je ne voulais pas que mes parents me voient craquer. Puis, je me suis ressaisie, je suis allée prendre un verre, j'ai regardé des dessins animés toute la nuit. Mais la pression médiatique, elle, ne retombe pas. Impossible de sortir de chez moi pendant 2 jours, je voyais mon nom, mon visage partout. Moi qui ai toujours été prudent sur Internet et les réseaux sociaux, je me suis sentie violée. Cela a duré des semaines, des mois, on me reconnaissait dans la rue tout le temps. Difficile quand vous avez peur de n'importe quel inconnu. Alors il s'enferme 4 mois chez lui, se réfugie dans les jeux vidéo, vérifie 7 fois que la porte est fermée à clé avant d'aller se coucher. 5 ans après, il a toujours peur du bruit, des cris, peur dans les gares, dans le métro, il ne le prend plus. Je vais devoir vivre avec ça tout le temps et c'est ce qui me fait le plus mal. Il a quitté l'imprimerie de Dammartin. J'ai abandonné Michel, dit-il. Si je ne le faisais pas, je me perdais. Il a aussi déménagé, retrouvé un travail et réclame sans aigreur, toujours de la même voix douce, le droit à l'anonymat. Un visage flouté sur les images télévisées. La vie des gens, c'est pas du cinéma, conclut Lilian. Ce n'est pas les médias, c'est une vie, c'est ma vie et je ne souhaite pas que les gens satisfassent leur curiosité avec mon histoire.
Florence Turme, dont les comptes rendus d'audience sont à retrouver grâce à la complicité d'Éric Chavroux sur notre site franceculture.fr. Sachez aussi que dans le temps du débat, ce soir à 18h20, Emmanuel Laurentin se demandera quel type de débat rouvre ce procès. Terminons ce journal par un portrait, celui de Carola Raquette, 32 ans, capitaine de navire allemande. Elle publie un livre, Il est temps d'agir, aux éditions L'Iconoclaste, dans lequel elle y expose son engagement contre le réchauffement climatique. Carola Raquette sera l'invitée d'Olivia Gesberg à 12h55 dans la grande table des idées aujourd'hui. Mais avant cela, Louise Baudet nous en dresse donc le portrait, à commencer par un coup d'éclat en mer Méditerranée il y a un peu plus d'un an.
29 juin 2019, sur le port de Lampedusa, le Sea-Watch 3 vient d'accoster. Sa capitaine Carola Raquette est arrêtée. Les médias du monde entier la décrivent en capitaine courage qui a osé forcer le blocus italien et défier Matteo Salvini. Pourtant, le secours aux réfugiés n'est pas son combat principal.
Cela fait 9 ans que je travaille sur les cercles polaires. L'hiver dernier, j'ai participé à une campagne de Greenpeace dans l'Antarctique où on a mesuré des températures jamais atteintes, jusqu'à 18 degrés. Alors mon principal sujet, c'est clairement le climat et l'environnement.
Rien ne prédestinait l'ado allemande de Basse-Saxe, père ingénieur dans l'armement, mère comptable, à devenir militante écologiste. Mais son diplôme de navigation maritime, ses voyages et les missions scientifiques auxquelles elle participe la font cheminer vers l'activisme et la désobéissance civile. Face à l'échec des mobilisations traditionnelles.
Le réchauffement climatique est connu depuis 50 ans. Et malgré les sommets internationaux, les manifestations, les pétitions, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Alors pourquoi continuer ?
Voter ne suffit pas, exhorte la jeune femme qui se défie des élites politiques et singulièrement du gouvernement allemand, seul pourtant en Europe à annoncer l'accueil de 1500 migrants après l'incendie du camp de Moria à Lesbos.
C'est ridicule. Quand vous voyez qu'une seule région allemande est d'accord pour en accueillir 2000, mais pourquoi donc n'en prendre que 1500 ? Avec toutes les initiatives des villes et des régions volontaires, on pourrait tous les accueillir.
Carola Racket porte en permanence autour du cou un petit pendentif représentant l'île de Lampedusa. Elle s'est éloignée de la Méditerranée, mais se dit prête à y retourner en cas d'appel urgent d'une ONG.
Carola Racket sera donc l'invitée d'Olivia Gesbert dans la grande table des idées ce midi. Le soleil sera partout ce jeudi, après quelques grisailles matinales le long du golfe du Lion ce matin. Et qui dit rayon de soleil dit encore chaleur. 19 degrés à Paris et à Besançon ce matin, 21 à Bordeaux et Lyon, 24 à Nice, 25 à 32 dans l'après-midi.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture.